Toujours plus, toujours plus haut, l'aventure Villemonde continue à Dubaï. Dubaï est la plus haute tour du monde, Dubaï qui vient d'accueillir le sommet mondial Women's Forum, Dubaï toujours plus. Seconde escale, Dubaï, Villemonde, bon voyage sur France Culture sans frontières.
Bien que je n'ai rien à acheter ni à vendre, mes journées à Dubaï sont vite remplies. Je loge chez Imelda, une Burundaise que j'ai connue au Congo, où en pleine guerre, elle gérait une compagnie aérienne dans la ville rebelle de Goma. À Dubaï, elle a commencé par travailler dans une agence immobilière, mais le marché s'est écroulé. Haut par-dessus les toits, des grues de chantier à l'arrêt lèvent désespérément leurs bras métalliques vers le ciel. Depuis, Imelda s'est lancée dans le commerce de l'or et des diamants. Elle sert d'intermédiaire entre des vendeurs africains et des acheteurs locaux. Une fois l'affaire conclue, elle prend son pourcentage. Elle habite non loin de l'aéroport, dans un ensemble d'appartements couleur sable de style yéménite. Les maisons élancées aux allures féeriques ont de petites fenêtres et des balcons à l'oriental. Du sien, par temps clair, on peut voir le centre d'affaires de Dubaï, un Manhattan de tours high-tech qui s'élève en scintillant dans le désert. Mais parfois, une redoutable tempête de sable hurle autour de la maison, réduisant la ville au loin à un mirage jaunâtre de colonnes antiques. Depuis la crise, l'appartement est devenu trop cher pour Imelda. Elle le partage désormais avec deux amies, une Autrichienne et une Iranienne. L'intérieur est aménagé dans un charmant style kitsch, canapé en cuir couvert de tissus d'Orient, lampes avec des perles en verre, bonbons artificiels dans des soucoupes, tout est rouge ou blanc, brillant et tintinabulant. Une famille d'ours en peluche loge dans la chambre à coucher, bien qu'Imelda et ses copines aient la quarantaine bien sonnée. Il n'y a en fait pas de place pour moi. Je dors sur un canapé dans le salon, où Imelda regarde des championnats de tennis pendant des nuits entières. Mais je m'accroche et je me fais toute petite. En ce début de voyage, je n'ai pas encore envie de dormir dans une pension pour commerçants à Dera. Le matin, je prends un taxi pour aller dans la vieille ville. Les chauffeurs viennent du Bangladesh ou du Pakistan, leur anglais est tout juste suffisant pour m'amener à destination. On fait parfois un brin de causette. « Comment est la vie, ici ?» demandai-je à un Afghan qui me conduit à travers les rues d'un air bourru. « Money good, life no good », répond-il.
Dans son ouvrage sur les ailes du dragon, Voyage entre l'Afrique et la Chine, l'auteure néerlandaise Liv Joris nous offre une escale à Dubaï. Elle séjourne aux côtés de communautés que l'on devine. La ville accueille des rêves de réussite, d'enrichissement facile, du monde entier. Mais le mot facile n'est qu'une élégance lexicale. À Dubaï, tous les expatriés travaillent dur. Une épée de Damoclès leur rappelle chaque matin que la perte d'un travail signifie la perte du visa, et donc de la déportation, telle qu'il nomme cette exclusion du jeu et du territoire. Une autre expression, plus heureuse, permet de remporter des victoires quotidiennes. Toujours plus. Toujours plus, sésame à Dubaï. Tandis qu'un guide nous emmène en quelques secondes, presque au sommet de Burj Khalifa, plus haute tour du monde à ce jour, cette expression nous parvient de toutes parts. De la vidéo qui nous présente la construction de l'édifice, des autocollants qu'arborent des touristes, de la vue d'une ville, en contrebas, qui pousse entre désert et golfe persique. Dubaï Ville Monde, toujours plus. Arnaud Contreras, Rafik Zénine.
Je suis Catherine Gilbert, j'habite à Dubaï depuis 5 ans. En France, j'habite dans la région de Compiègne, dans l'Oise. Et j'ai lancé un magazine ici il y a 4 ans aujourd'hui. Un magazine en français et en anglais, tout est traduit. Et le magazine est un gratuit qui est distribué partout dans les Émirats, donc que ce soit dans les aéroports, on est à bord de tous les avions d'Etihad Airways qui est la compagnie nationale, on est dans les hôtels 5 étoiles, dans les restaurants, les cafés, enfin vraiment partout. Et c'est un magazine à vocation culturelle, on essaye de mettre de la culture dans tout, parce que c'est ce qui manque un peu ici dans les publications. Donc l'idée, c'était de parler à la fois de la France pour les gens qui habitent ici, de la France, de l'Europe évidemment par extension, et puis aussi de faire connaître les Émirats à l'extérieur, les Émirats et le Golfe, parce que quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait plein d'idées préconçues sur les Émirats, sur le mode de vie, sur le manque de culture, paraît-il, etc. Donc comme j'ai trouvé que tout ça c'était faux, je me suis dit que j'allais redresser un petit peu la barre et puis montrer que ce pays est un pays très très intéressant et c'est un pays qui a énormément de potentiel. Et de faire connaître ça à l'extérieur, c'est presque une mission, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur.
Est-ce que vous pouvez nous décrire cet endroit où on est, qui est assez improbable ?
Alors ici, nous sommes au Pavilion. Alors le Pavilion, à l'origine, c'était un restaurant, café, très grand bien sûr, avec des expositions en permanence. Il y avait des expositions de tableaux, il y a une librairie, enfin une bibliothèque. Et c'est un endroit en fait où les gens viennent travailler parce qu'il y a le Wi-Fi, donc on peut se connecter. C'est un endroit calme qui se trouve dans un quartier qui lui est plein de vie puisque c'est juste en face du Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde. Et en fait, la société qui a construit le Burj Khalifa et qui a construit tout ce quartier, qui en construit d'autres d'ailleurs, c'est eux qui vont construire la nouvelle capitale en Égypte notamment, a décidé d'implanter ici ces nouvelles maquettes. Et donc tous les nouveaux projets sont mis ici en maquettes. Alors c'est des maquettes qui sont immenses, hein, mais d'un autre côté ce sont des projets qui sont immenses aussi. On est à Dubaï. Et donc on peut visiter, on peut voir les différents projets pour Dubaï.
Alors quand on parle de culture à Dubaï, est-ce que c'est comme quand on parle d'immobilier ou comme quand on parle d'automobile, c'est le toujours plus ?
Alors non, moi je ne trouve pas. Alors il y a une vraie compétition, je pense, entre Abu Dhabi et Dubaï. C'est-à-dire que Abu Dhabi, qui est la capitale des Émirats, c'était un petit peu proclamé comme aussi la capitale de la culture aux Émirats, avec évidemment la présence du Louvre Abu Dhabi qui va ouvrir l'année prochaine, la future présence du Guggenheim, de Sheikh Zayed Museum, avec une très très grosse foire aussi qui est la Abu Dhabi Fair. Donc Une capitale qui se voulait vraiment très très culturelle. Et puis Dubaï, en fait, petit à petit, est rentré dans le jeu et s'est lancé aussi dans le domaine de la culture. Et Dubaï le fait différemment. Dubaï, c'est plus des galeries. Alors, il y a des vernissages quasiment tous les soirs parce qu'il y a une multitude de galeries dans différents quartiers. Il y a évidemment la Dubaï Design Week. Donc, tout ce qui est design, art est représenté. Donc, partout ici en ville, il y a une galerie qui vient d'ouvrir à Dubaï Mall. Dubaï Mall, le plus grand centre commercial du monde. Eh bien, il y a une grande galerie qui vient d'ouvrir pour la première fois. Donc voilà, il se passe des choses en permanence, des petits événements, des gros événements. Et je crois qu'aujourd'hui, Dubaï fait partie de toutes ces grandes villes où transite l'art. Ça devient une ville qui devient incontournable. Tous les grands artistes viennent ici. Il y a un quartier qui s'est construit qui est Dubaï Design District, donc D3. 3 le chiffre, qui à l'origine était un quartier qui devait être consacré à la mode et qui en fait s'est étendu au-delà de ça au design et à l'art. Donc aujourd'hui c'est un quartier qui est en train de terminer de se construire, il n'est pas fini mais c'est immense, mais il y a déjà des galeries qui sont installées et il y a énormément de projets et énormément de choses qui se passent en fait en matière d'art.
Quand on ouvre votre magazine, hein, que vous nous présentez, le magazine Madame Dubaï.
Voilà, Madame Magazine.
Les premières pages, on voit News de luxe quand même.
Oui, bien sûr, parce qu'on est dans une ville où le luxe est à tous les coins de rue. Partout où on passe, c'est du luxe. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus snober ça, parce que ça fait partie, je dirais, presque de la culture locale. Le luxe, c'est quelque chose avec lequel on vit au quotidien. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui ne soit pas fait dans le luxe ici à Dubaï. Les constructions sont luxueuses, les voitures sont luxueuses. Chaque détail, en fait, implique du luxe. Et puis le luxe, ça veut dire quoi, en fait ?
Est-ce qu'il y a cette culture du luxe ? Est-ce que le luxe, le bling, le show-off ont créé une culture ici ?
Oui, bien évidemment. Appelez ça une culture si vous voulez. Moi, je n'appelle pas ça une culture, j'appelle ça une jeunesse. On est dans un pays tout neuf. C'est un pays qui vient de fêter ses 44 ans. Quand on voit d'où ils sont partis il y a 44 ans, c'était le désert. C'était des Bédouins qui vivaient dans le désert. Et quand on voit la ville aujourd'hui, les villes des Émirats en 44 ans, c'est quand même très très impressionnant. Donc le luxe pour eux, le côté bling bling comme vous le dites, c'est un peu la jeunesse du pays. Je pense que c'est un passage obligatoire. On a l'argent qui permet de s'offrir un certain nombre de choses, et bien pourquoi ne pas l'utiliser ? Donc ça fonctionne comme ça. Maintenant, dire que le luxe c'est une culture, je dirais pas ça. Non, je dirais pas ça.
Il y a des galeries d'art à Dubaï, beaucoup, mais il fallait plus, un projet, des projets d'envergure. La famille Al Serkal s'est lancée dans l'affaire, investie, choisie, s'entoure. On parle peu du business de l'art, beaucoup d'une communauté d'amateurs d'art, qui doit elle aussi, à force d'événements, grossir.
Nous sommes en ce moment sur Al Serkal Avenue à Dubaï. C'est le quartier culturel de Dubaï. Et c'est un point de rencontre pour l'art, les espaces créatifs. C'est un lieu pour des gens intéressés par la même chose. Il y a une communauté très intéressante qui s'est créée ici. Et quelque chose qui fera référence pour les générations à venir.
Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi correspondent les différents hangars que l'on retrouve dans cet espace ?
Oui, il y a de nombreux entrepôts dans Al Serkal Avenue. Chaque entrepôt est une galerie ou un espace dédié à l'art. Nous avons une salle de théâtre, plein de galeries différentes, un espace de rencontre pour les créateurs où ils croisent des personnes intéressantes et font quelque chose de différent. De plus en plus de gens viennent et avec le temps, la communauté s'agrandit. Au début, c'était juste de l'art, mais ça se transforme. Ce n'est plus uniquement de l'art, mais toutes les composantes du milieu culturel.
So that's something interesting. Quel est votre parcours personnel avant de créer cet ensemble de galeries ? Est-ce que vous venez du monde de l'art ?
Personnellement, j'ai été éduqué dans une famille où l'on aime l'art. Donc cela m'a offert une bonne base et je suis privilégié d'être là où je suis. Je peux voir la scène artistique grossir dans la région, voir comment elle change, comment elle évolue.
Est-ce que vous présentez aussi des artistes locaux dans cet endroit ou est-ce que ce sont uniquement des artistes du monde entier ?
Oui, il y a beaucoup d'artistes locaux, mais ils sont encore en train de se former. Quelques-uns ont un très bon niveau, mais les autres grandissent encore et nous espérons que bientôt ils seront sur la scène internationale.
Est-ce que ça fait partie de la stratégie touristique ou est-ce que c'est plus une stratégie artistique de la part de Dubaï ou de votre part ?
C'est notre volonté personnelle. Nous, en tant que famille, nous croyons que nous devons rendre à la communauté parce que le gouvernement nous a beaucoup aidés et sans la famille royale, nous ne serions pas là où nous sommes maintenant. Donc c'est notre devoir et notre obligation de rendre en retour à la communauté. Et nous croyons qu'en agissant comme cela, en promouvant les artistes locaux, nous les ferons connaître dans la région et nous espérons qu'ils soient connus à un niveau international.
Comment est-ce que vous aidez les artistes? Est-ce que vous avez un rôle de commissaire d'exposition? Est-ce que vous êtes coproducteur de certaines des œuvres des jeunes émiratis?
I am just a person who is here to help.
Je suis juste quelqu'un qui veut aider.
I won't say I'm a curator.
Je ne dirais pas que je suis commissaire ou collectionneur d'art. Mais si un artiste a besoin d'aide, je suis là. C'est mon obligation.
Al-Sirkal Avenue was created 10 years ago. Abdelmonem Al-Sirkal, who is the patron and founder of the avenue,
a été créé il y a 10 ans. Abdelmonem, qui est le parrain et le fondateur de cette avenue avec sa famille, Al-Sirkal, était le propriétaire de cet endroit qui était une usine de marbre. L'usine de marbre a fermé et ne sont restés quasiment que des entrepôts vides. En 2007, quelques galeries ont commencé à s'installer. Une relation s'est instaurée avec Abdelmonem qui continue jusqu'à aujourd'hui. Au fil des ans, plus de galeries sont venues. Abdelmonem s'est pris d'intérêt pour le sujet, est tombé amoureux de l'art et a vraiment voulu que le projet prenne de l'ampleur. Il y a quelques années, il a décidé de construire une extension que vous voyez de ce côté de l'avenue pour permettre à d'autres entreprises de création de venir les rejoindre. Il voulait aussi soutenir l'art de différentes manières. Donc maintenant, il y a aussi des galeries plus commerciales qui font un travail formidable pour aider la scène artistique locale, mais toujours avec une ambition commerciale. C'est la manière avec laquelle de nombreuses scènes artistiques se sont installées dans le monde. Vous avez besoin de galeries pour offrir du travail aux artistes et pour créer une clientèle pour l'art. Mais Abdelmonem reconnaît aussi que si l'on veut que la scène artistique à Dubaï se développe et arrive à maturité, il faut une part sans profit, faire des efforts. Dans d'autres villes, ce qui se fait d'habitude, c'est donner du travail aux artistes, créer des résidences, offrir des bourses pour qu'ils puissent se développer au niveau local et international. Mais cela n'existait pas réellement ici. Quelques organisations le faisaient, mais pas tant que cela. Donc Abdelmonem a décidé de lancer la partie mécénat de ce projet qui se nomme Miro, pour aider les artistes directement.
Providing that extra support for the community that the galleries themselves can't do. I think the commercial end is there. The galleries do a lot of work selling to collectors.
Le but commercial demeure. Les galeries font beaucoup pour vendre aux collectionneurs. Leur métier ne consiste pas uniquement à nourrir des artistes, mais aussi à nourrir un marché. Il y a beaucoup d'opportunités pour éduquer les collectionneurs.
Dubai still is an emerging economy and the collectors here are quite young.
Mais Dubaï demeure une économie émergente. Les collectionneurs sont ici très jeunes. Notre travail en tant que communauté a plus pour fondement l'éducation, pour vraiment promouvoir le rôle de l'art dans la vie de la ville et de ses habitants. C'est ce que nous souhaitons faire avec Al-Sirkal Avenue. Pas uniquement comme organisation, mais par tous les individus qui composent cette communauté.
On vous suit dans les allées de Al-Sirkal. Est-ce que vous pouvez nous emmener à un endroit que vous venez de créer?
Well, I can take we walked by some of the galleries, but what we had here just last weekend.
Je peux vous emmener. On passe devant certaines des galeries, mais je peux aussi vous parler de ce qui s'est passé ici le week-end dernier, ce que l'on appelle un urban market. Urban Market est un événement pour développer la communauté au sens large en installant des magasins avec une cinquantaine de marchands différents qui vendaient de tout, du design à la mode, en passant par des petits objets d'art. Il y avait aussi de la nourriture. Ce qui a été génial pendant cet événement, c'est que des milliers de personnes sont venues, des familles, des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par les arts visuels ou le marché de l'art tel qu'on l'entend, mais plus intéressées à l'origine par la nourriture, la musique, le shopping. Donc des événements comme celui-là sont importants pour nous, car cela nous permet d'étendre le public de l'art dans la région.
Est-ce que ça intéresse vraiment les Émiratis, les Dubaïotes, un marché comme ça, très hipster, le week-end?
Pour être honnête, c'est pour différents types de publics. Le public émirati est lui-même très divers. Vous avez d'un côté les jeunes émiratis très connectés, qui se sentent membres de la youth culture, mais vous avez aussi une partie de la communauté qui est plus conservatrice, qui sort, mais pour certaines raisons. Si une galerie expose des artistes émiratis, vous aurez un public plus composé d'émiratis, notamment de vieilles familles émiratis. Donc nous devons éduquer les jeunes, les enfants, par des activités artistiques. Les ateliers sont un bon moyen pour attirer le public émirati. Mais dans les Émirats arabes unis, dans Dubaï, seuls 10% de la population est émirati. Donc nous devons avoir en tête que 90% de la population est expat, d'Europe, des États-Unis, d'Asie du Sud, du Moyen-Orient. Donc cette communauté d'expats est très variée et ce que nous essayons de faire tout le temps, c'est de leur offrir des choses différentes. Vous devez les cibler séparément. Il est très difficile de créer un événement où tous puissent venir.
Je suis Déborah Najjar, je vis à Dubaï et je suis la directrice de la fondation Jean-Paul Najjar.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours avant d'arriver à Dubaï ?
Alors je suis née en France de mère franco-allemande et de père égypto-colombien. J'ai été expatriée toute mon enfance, donc j'ai voyagé et changé d'école régulièrement jusqu'à m'installer à Dubaï il y a maintenant 11 ans, donc en 2004, où j'ai travaillé sur divers projets comme on peut le faire ici et arriver aujourd'hui à cette fondation.
Pourquoi est-ce que vous êtes installée à Dubaï en particulier ?
À côté, c'était l'opportunité. Mon mari a eu une offre professionnelle et nous sommes venus visiter Dubaï. Ça nous a beaucoup plu, ça nous a semblé très excitant, très dynamique. C'était un petit peu le début, la marina n'existait pas encore. Enfin, Dubaï était vraiment en ébullition et on a voulu faire partie de cette aventure. Et donc, nous sommes venus nous installer.
À quel moment est-ce que vous avez décidé de créer votre fondation ?
Alors c'est un projet qui marinait depuis de longues années, dont nous parlions beaucoup avec mon père. Et il y a à peu près 2 ans, Al Serkal Avenue a annoncé sa nouvelle expansion. Et je suis allée les rencontrer pour leur présenter cette idée de la fondation et avoir un petit peu leur avis. Et en fait, ils m'ont tout de suite ouvert les bras et ont voulu que nous fassions partie de l'expansion et créer ce lieu qui est évidemment non commercial, qui a une vocation muséale au sein de l'expansion de l'avenue. Et ce qui est merveilleux, évidemment, c'est que Al Serkal Avenue était à la base une usine de taille de marbre. Et donc, elle est composée de hangars. Et dans la nouvelle expansion, ces hangars sont complètement vierges. Donc, on peut prendre possession d'eux et y faire un petit peu ce que l'on souhaite. Donc, nous avons eu la chance de travailler avec un architecte extraordinaire, qui est un monsieur de 82 ans, qui s'appelle Mario Jossa et qui avait été l'associé de Marcel Breuer. Donc, nous avons travaillé avec cet architecte formidable et créé cet espace qui ouvrira au printemps prochain, qui est un espace très Bauhaus, évidemment très signé Marcel Breuer, et qui aura vocation à être un mini-musée.
Quelle est l'idée derrière cette fondation, Najjar ?
Alors, nous avons 3 responsabilités ou objectifs. Le premier étant de présenter la collection dans son ensemble, cette collection qui représentent des artistes américains et français des années 70, 80, 90, des artistes conceptuels et post-minimaux. La deuxième vocation est de défendre les artistes qui sont au sein de la collection. Et troisièmement, c'est vraiment d'encourager à collectionner. Et nous avons une collection qui est très très riche aussi en archives. Nous avons beaucoup de correspondances avec les artistes, beaucoup d'images. Et ça nous permet de développer un discours autour de la vie de mécène, finalement, et de la vie merveilleuse qu'on peut avoir entourée d'artistes. Donc, autour de ces 3 axes, pour nous, ce qui est très important, c'est d'ouvrir un dialogue, une conversation, démarrer une conversation, et nous aurons évidemment un programme éducatif autour de cela.
La création de cette fondation, de ce lieu, ça correspond aussi à un manque à Dubaï de médiation culturelle, du goût de la collection et du partage de la collection ?
Alors, Dubaï est une ville formidable et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le peuple émirien a une très très forte culture, et une très grande histoire très très riche, mais c'est un peuple, et ça c'est parfait pour la radio, de communication orale. et il y a moins d'écrits. C'était un peuple nomadique, donc il n'y a en effet peut-être pas beaucoup de musées historiquement, mais c'était en fait une réponse à une opportunité. Pour nous, d'être à Dubaï est une opportunité formidable, c'est une plateforme extraordinaire pour la collection, et nous sommes très heureux de participer à tout ce mouvement que fait déjà le gouvernement, que font déjà toutes les galeries qui sont très actives et très établies, et donc nous sommes un maillon de plus qui ouvre un dialogue aussi avec l'Ouest.
Est-ce que les Émiriens sont impliqués dans le choix de certaines œuvres ?
Alors oui, puisque Abdelmonem Al-Serkal, qui est aussi notre partenaire, est sur le comité d'acquisition. Donc nous parlons avec lui des acquisitions, et nous avons d'autres amis, dirons-nous, qui y participent.
Et est-ce qu'il y a une politique d'acquisition d'artistes de la région ?
Alors c'est quelque chose que nous analysons de très très près. Il y a des artistes formidables dans la région, notamment un artiste émirien qui se nomme Hassan Sharif et qui est un artiste conceptuel qui est tout à fait dans la lignée de ce que nous avons dans la collection, avec qui nous aimerions beaucoup collaborer. Donc ça, c'est pourquoi pas une avenue par rapport aux artistes de la région. Nous sommes très intéressés par ce qui s'est passé dans la région pendant ces années 70-80 et à voir comment on peut faire des parallèles et travailler ensemble, oui.
Est-ce que, du fait de l'image que peut avoir la région en ce moment, vous allez plus vers certains choix de pièces ou d'autres ?
Alors, comme je vous le disais, nous n'avons pas encore défini ou finalisé, je dirais plutôt, notre politique d'acquisition pour l'avenir. Donc, cette stratégie n'étant pas en place, nous n'avons pas encore démarré les acquisitions d'artistes dans la région. Mais je pense que nous prendrons cela en compte, évidemment.
Est-ce que vous pouvez présenter toutes les pièces qui font partie de votre fonds ici à Dubaï ? Est-ce que vous pouvez, ou est-ce qu'il y a certaines pièces, vous dites on ne peut pas présenter ça à un public émirien ?
Ah non, nous pouvons tout à fait présenter l'intégralité de la collection. Le problème est plutôt que la collection est assez grande, et donc nous aurons besoin de beaucoup d'années avec beaucoup d'expositions. Aujourd'hui, nous avons défini notre programme d'exposition jusqu'en mars 2018. Mais nous avons un fonds assez large d'œuvres. Nous envisageons évidemment de collaborer avec d'autres institutions, d'autres collectionneurs, pour enrichir le dialogue et apporter de nouvelles perspectives. Donc, c'est illimité ce que nous pourrons faire. La collection est abstraite. Est-ce que nous introduirons de la figuration à un moment ou à un autre ? Je ne le sais pas encore.
Vous y pensez ?
Écoutez, pourquoi pas, c'est une décision importante, mais qui n'est pas exclue.
Quelle est la vie des collectionneurs, des commissaires d'expo à Dubaï ? Est-ce que c'est un petit peu comme à Moscou, où tout d'un coup il y a des oligarques qui demandent à des curators américains ou des commissaires français de venir leur choisir des œuvres pour leur créer une collection ? Est-ce qu'il y a cet esprit ici ?
Je pense qu'ici l'esprit du collectionneur est très authentique et très passionné et aime apprendre. Il y a beaucoup de curiosité, il y a beaucoup de souhaits, d'explications, de compréhension des œuvres. Et je vois surtout des collectionneurs très engagés qui choisissent leur voie et leur fil conducteur et qui s'impliquent personnellement de façon assez sérieuse. Il y a une communauté d'ailleurs formidable, une communauté des arts qui est très intéressante. J'ai le plaisir d'en faire partie et de passer des soirées comme on les passerait à Paris à débattre de ci et de ça.
Est-ce que vous pouvez nous livrer le genre de conversation que vous avez lors de ces soirées ?
Oui, il n'y a pas si longtemps, j'ai dîné chez un collectionneur, et un collectionneur d'ailleurs très sérieux, et on a discuté finalement toute la soirée sur la définition du collectionneur et à quel moment devient-on réellement un collectionneur. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'à partir du moment où il n'y avait vraiment plus de place dans la maison pour les œuvres que l'on achetait, on était devenu un collectionneur. Et puis bon, après, on pouvait comparer peut-être la taille de nos hangars, mais on est arrivé à cette conclusion-là.
Il était émirien ? Il est émirien ?
Oui, tout à fait, il était émirien. Il y a de très belles collections dans les mains de familles émiriennes qui collectionnent, d'ailleurs au-delà des artistes émiriens, qui ont la curiosité, et même au-delà des frontières du Moyen-Orient, d'aller voir ce qui leur plaît et ce qu'ils peuvent ajouter à leur collection.
On n'a pas encore entendu parler au niveau mondial d'un artiste émirien. Est-ce que vous pensez qu'on en est loin? Est-ce que vous pensez que ce moment approche?
Je pense que le moment approche. On voit déjà une belle reconnaissance des artistes contemporains iraniens, avec des artistes comme Monir Farman Farmayan, évidemment Pervez Tanavoli, etc. Il y a quelques très bons artistes émiriens. Je pense que dans un futur très très proche, il y aura de beaux développements, voilà, pour les artistes émiriens à l'international, tout à fait.
Il y a à Dubaï une certaine idée du bonheur à offrir. Le séjour doit être une expérience. Une expérience d'achat dans les immenses centres commerciaux, les malls. Une expérience unique en faisant du ski sur une piste en neige artificielle, même lorsqu'il fait 48 degrés dehors. Mais surtout, il faut offrir une expérience touristique. Le tourisme est l'objectif affiché pour Dubaï. Pas une semaine sans qu'il y ait une compétition, un grand prix international, un salon mondial. Les touristes doivent bénéficier de toutes les attentions et être surpris, toujours plus. Dubaï souhaite rayonner par les événements qu'il crée, veut attirer les meilleurs spécialistes dans chaque domaine d'activité. L'exposition universelle, Dubaï 2020, doit être l'un de ces grands événements.
Bonjour, je suis Philippe Blanchard, je travaille pour l'exposition universelle de 2020 à Dubaï. Je suis ici en tant qu'invité. J'ai l'occasion de travailler avec eux sur ce projet qui est un projet extrêmement passionnant et j'ai envie de dire même un projet d'une vie. Mais je suis bien conscient que je ne suis pas et je ne veux pas paraître le représentant de l'expo. Donc c'est un projet qui est un projet national qui a été conçu, mûri et par rapport à cette conception et ce travail de maturité, ils ont souhaité s'associer des expertises extérieures, à la fois par rapport à l'expérience qu'on peut avoir, mais également par rapport à la différente perspective qu'on peut avoir. Et donc ce que je voudrais souligner de mon côté, c'est à la fois la chance que j'ai de participer à ce projet, mais bien rappeler que en aucun cas je ne suis émirati et je ne parle en leur nom.
Alors il pleut, il y a une espèce de panique dans l'endroit où on est. Vous pouvez nous décrire un petit peu plus cet endroit?
Alors on est précisément à la cantine du Faubourg, qui est un restaurant français qui a été ouvert il y a 8 mois maintenant. Et l'objectif de la cantine, c'était justement de mélanger la dimension culinaire et la dimension culturelle, puisqu'ils exposent régulièrement des artistes, pas uniquement français, mais de différents pays du monde. Et donc pour nous, c'est assez intéressant parce que c'est un petit bout de Paris ici, au milieu de Dubaï.
Est-ce que ce mélange de culture et d'entrepreneuriat est ce que vous défendez dans votre poste, dans ce comité pour Dubaï 2020?
Oui, tout à fait, parce que l'objectif de l'exposition universelle, c'est à la fois de montrer l'image de Dubaï, des Émirats Arabes Unis, de montrer cette capacité que ce pays a eu d'accueillir différentes communautés. Il y a près de 90% d'expatriés qui habitent ici. Et pour ce faire, l'idée est d'utiliser la culture aussi comme moyen de communication, comme moyen d'échange, aller plus loin, aller vers l'autre. Ça, c'est un des gros objectifs de l'exposition universelle, effectivement. On veut que ça soit une exposition universelle et notre slogan a été de dire, pour la première fois de l'histoire, avec 70% de visiteurs qui seront étrangers, on aura une exposition universelle qui sera réellement universelle. En général, les expositions s'adressent principalement à leur propre territoire, avec près de 70% de gens qui viennent autour de l'expo ou du pays hôte, alors que nous, au contraire, on aura 70% qui viendront de l'international.
Quand on parle du projet d'exposition universelle 2020, Dubaï 2020, est-ce que ça concerne uniquement Dubaï ou est-ce que ça concerne des pays qui sont liés à Dubaï ?
Le contrat qui est signé avec le Bureau international des expositions, donc la structure fêtière, est un contrat tripartite. Il y a la ville hôte, Dubaï, il y a le pays hôte, les Émirats Arabes Unis, et le BIE. Et comme on est un petit pays et que Dubaï représente aussi un modèle de développement des pays du Golfe, il y a une volonté d'aller plus loin que Dubaï et les Émirats Arabes Unis et vraiment d'impliquer les autres pays du Golfe, et notamment les pays qu'on appelle du GCC, le Conseil de coopération du Golfe.
Philippe Blanchard, il y a quelque chose qui est assez intriguant dans ce projet Dubaï 2020, c'est qu'on voit partout sur les immeubles The Next Step, des slogans très volontaristes, l'idée d'inventer une histoire. Là, c'est un petit peu le vieux monde quand même, les expositions universelles.
Alors, je pense que les expositions universelles ont été extrêmement populaires jusque dans les années 60. Et donc, les gens se rendaient sur les sites d'exposition pour découvrir de nouvelles technologies, découvrir de nouvelles cultures. C'est vrai que c'est tombé un peu en désuétude. Et le pari qu'on a fait, nous, c'est que le concept était intéressant, mais il fallait le réinventer. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec la candidature. C'était de dire, OK, gardons le principe, mais travaillons à son articulation de manière un petit peu différente, de manière à ce que ça puisse être très moderne et justement aider des territoires à se développer, notre territoire bien évidemment, mais également d'autres territoires à se développer. Parce que l'approche qu'on a, c'est que les compétitions qui ont existé classiquement au niveau des pays ou au niveau des entreprises, ces compétitions vont être probablement changées avec des compétitions entre des territoires. Donc les villes, les territoires vont chercher à attirer des compétences et recréer ce qu'on a connu avec la Renaissance italienne, la République de Venise ou la Ligue hanséatique au niveau des pays du Nord. Et c'est vraiment cette logique-là qu'on essaie de travailler. Donc c'est encore plus vieux encore que ce que vous évoquiez. Mais au contraire, on considère que ces principes-là, qui ont eu une valeur à une certaine époque, redeviennent d'actualité aujourd'hui et préparent le futur.
Est-ce que ce projet Dubaï 2020 va encourager l'esprit du toujours plus ou va un petit peu le calmer?
Alors, c'est un des gros sujets qu'on a travaillé dans la candidature et je ne sais pas si pour les auditeurs français ça parlera, mais Dubaï était la ville en EST, de biggest, de tallest, et donc on était vraiment dans une logique de superlatif. Et une des demandes qu'on a reçues de la part de notre haut comité, c'était de passer de la ville en EST à la ville en ING. Developing, partnering, working together. Donc on est vraiment dans cette logique de, il ne faut pas montrer sa force, mais il faut au contraire utiliser cette force et ce qui a été fait ici pour faciliter le développement, le décloisonnement, le multiculturel. Et donc Dubaï a été très fortement mobilisé par rapport à la construction, donc des éléments extrêmement tangibles, concrets. Et aujourd'hui ce qu'on veut, c'est par rapport à ces contenants, apporter des contenus. Et le thème de l'expo, donc les partenariats, a été décliné sur trois sous-thèmes. Un thème de la mobilité, logistique et transport. Un thème de la durabilité, le lien entre l'énergie et l'eau. Et le thème de l'opportunité. Et par opportunité, on entend tout ce qui est développement économique et social. Et donc on a vraiment cette volonté d'utiliser le catalyseur qu'est l'expo, d'utiliser la plateforme de catalyse qu'est Dubaï pour faciliter le développement de nouvelles activités et de nouveaux modèles de développement économique et social.
Dans le projet de Dubaï 2020, il y a aussi la volonté de développer les smart cities, que Dubaï devienne une smart city. Qu'est-ce que ça veut dire? Non pas pour le centre-ville, parce qu'on imagine très bien, c'est des objets connectés, c'est des lumières connectées, c'est une fluidité, mais qu'est-ce que ça représente pour les quartiers périphériques?
On retrouve dans cette dimension de Smart City la coexistence de la ville, le fonctionnement de la ville, la dimension politique au sens vie de la cité, et regarder comment la technologie ou les technologies peuvent proposer des modèles différents de fonctionnement. Mettre en place une Smart City par rapport aux différentes dimensions de la Smart City, transport, mobilité, bien-être, entrepreneuriat, participation des citoyens, cette dimension est assez complexe à mettre en œuvre et on a la chance d'avoir avec l'expo la création d'une nouvelle ville autour de son aéroport. On appelle ça une aérotropolis, donc une ville qui est conçue vraiment autour de l'aéroport où on peut commencer de manière extrêmement vierge puisqu'il n'y a rien. Et donc, le cahier des charges qui nous est donné, c'est justement d'intégrer toutes les dimensions de la Smart City dès le début dans l'expo, avec une nécessité très affirmée d'investir également du temps et de l'argent pour communiquer sur les bonnes et les mauvaises pratiques que nous rencontrerons durant la préparation du site, durant les 6 mois de l'expo, de manière à pouvoir ensuite irriguer, enrichir le reste de Dubaï. Et il y a une structure, quand j'ai commencé à travailler ici, qui m'a énormément impressionné. Le gouvernement a créé une structure de compétitivité des Émirats. Et donc cette structure a la responsabilité de regarder toutes les bonnes pratiques qui existent dans le monde pour essayer ensuite de les analyser, les formaliser et d'imposer leur application dans le cadre de Dubaï. Le site de l'expo, le fonctionnement de l'expo va être très fortement lié à cette dynamique-là de benchmarking, de création de références, avec une obligation qui nous est donnée de formaliser ces bonnes pratiques de manière à pouvoir les communiquer au reste de la ville et au reste du pays.
On entend beaucoup parler de Smart City, mais il y a un autre mot qui ressort énormément quand on parle de Dubaï, c'est Sim City, le jeu. Mm-hmm. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans un grand jeu ici ?
Alors, je suis pas très bon par rapport à Sim City, et c'est vrai que quand on regarde de l'extérieur, on peut se dire effectivement, avec toutes ces constructions qui étaient au début horizontales, qui deviennent maintenant verticales, tous ces flux de personnes et tout ça, il y a un petit côté ludique, mais on prend ça très au sérieux de notre côté, puisque l'objectif est non pas nécessairement de travailler sur la simulation du développement de la ville, mais déjà sur une compréhension du fonctionnement de la ville, de manière à pouvoir mieux contrôler, assister. Après, la dimension prédictive, comment la connaissance qu'on a acquise par rapport au transport, par exemple, peut nous aider à mieux appréhender le développement de Dubaï. Et un des éléments qui, moi, m'a beaucoup plu, c'était de comprendre comment le gouvernement et Cheikh Mohamed a anticipé le développement de son pays en positionnant le site de l'expo, pas de manière classique, mais vraiment dans la partie sud de Dubaï, de manière à anticiper le développement de Abu Dubaï, une ligne, une métropole qui pourrait s'étendre le long de la côte et qui rapprocherait donc la ville de Dubaï et la ville d'Abu Dhabi, la capitale du pays. Donc on est vraiment dans cette logique où la technologie et les efforts que nous faisons viennent soutenir, enrichir la vision des leaders.
On n'a plus de vaisseau. D'équipage. Comment on va s'en tirer cette fois ?
Nous trouverons l'espoir dans l'impossible.
Faudrait pas que ça parte en vrille.
C'est ici que tout commence, capitaine. C'est ici que la frontière se dresse.
Mais qu'est-ce que c'est ?
Je sais pourquoi vous êtes là. Pourquoi nous sommes tous là.
D'accord, on ne fait plus jamais ça.
Mohamed Benjebour, attaché audiovisuel régional pour le Golfe, pour le ministère des Affaires étrangères français, à Dubaï. On est dans une région où il n'y a pas forcément de cinématographie aujourd'hui installée et mature. On est dans ce que j'appelle un marché émergent. Il y a de plus en plus de réalisateurs qui naissent et de films qui sont produits dans la région. Et l'ambition vraiment de ces pays-là vient de deux ou trois obsessions qu'ont ces pays. C'est la première, c'est une obsession économique qui est de diversifier leur économie. Donc ils ont bien compris, comme beaucoup de pays et depuis de nombreuses années, que l'entertainment est une grosse industrie et que ça peut être une part importante d'une économie mondialisée. Donc pour eux, c'est vraiment un investissement en business que de s'investir dans le domaine cinématographique. Ensuite, il y a aussi cette volonté de montrer que ce sont des pays qui ont un patrimoine, un heritage, comme on dit en anglais, et que le cinéma, en termes de soft power, est un outil intéressant pour montrer un peu ce qu'est leur culture et leur pays. Et le troisième élément, ce que j'appelle aussi la troisième obsession, c'est de former leur jeune génération, puisqu'on est dans des périodes où la diversification de cette économie va faire qu'il va falloir que les jeunes puissent gérer dans de nombreux secteurs, des secteurs économiques très différents. Et c'est vrai que le cinéma est un domaine dans lequel ces pays-là investissent beaucoup, en particulier dans l'éducation et dans la formation. Donc le quatrième élément est peut-être l'élément un peu touristique et visibilité médiatique. Les films commissions de Dubaï et d'Abu Dhabi notamment sont très très impliqués dans l'attraction de tournage, notamment de gros films d'Hollywood, parce qu'ils ont pour vocation et pour ambition de devenir des plateformes touristiques importantes. Elles le sont déjà, Dubaï elle l'est déjà, mais ils veulent renforcer ça. Ils ont pour ambition de doubler le nombre de touristes aux Émirats d'ici 5 ans, ce qui n'est pas rien. Et le fait d'avoir des films comme Star Wars, Fast and Furious, Star Trek ou le dernier film de Jackie Chan tourné aux Émirats est une bonne façon pour eux de promouvoir la destination Émirats Arabes Unis et Dubaï en particulier comme destination touristique.
Quand vous parlez de soft power, ce soft power est dirigé vers l'ouest, vers l'est?
Dubaï se situe toujours à la connexion du dialogue entre l'est et l'ouest. Mais je dirais principalement, il y a un soutien des cinématographies du monde arabe, de l'Asie, de l'Afrique, vers l'Ouest, très clairement. Il y a cette volonté de montrer ce n'est pas que des Rolls-Royce, des belles voitures et des immeubles ultra modernes, mais qu'il y a aussi une culture à partager. Et on le voit bien dans la stratégie, et pardon d'utiliser ce terme-là dans le secteur culturel, mais Dubaï est géré comme une entreprise. Donc après s'être installé comme une destination touristique un peu à la Las Vegas, les autorités de Dubaï ont bien compris qu'il manquait quelque chose, un peu de profondeur, un peu d'âme, et qu'il fallait compléter l'offre culturelle par des équipements et par une industrie ou en tout cas une offre culturelle plus riche. Donc l'ouverture de l'Opéra bientôt, du Louvre à Abu Dhabi dans un an, du Guggenheim, etc. font partie de cette stratégie de complémentarité entre les différents secteurs du tourisme et de la culture.
En parlant de stratégie culturelle et commerciale, est-ce que cette stratégie se résume à voir ce qui se passe ailleurs et y mettre un petit peu plus de moyens, ou est-ce qu'il y a un aspect plus local, plus culture locale?
Il y a eu très longtemps cette volonté de singer l'Ouest. Les premières réunions moi, que j'avais ici, c'est comment fait-on pour devenir le nouveau Cannes, mais le Cannes du monde arabe, le festival de Cannes du monde arabe, comment fait-on pour... je crois que depuis 2 ans, il y a vraiment une volonté de se positionner et de montrer ce qu'ils sont, eux.
Alors, dans les films qu'on nous a proposés, naturellement, on nous a proposé un film sur l'idole palestinienne, Mohamed Assaf. On a proposé des films par d'autres réalisateurs, mais pas forcément les jeunes d'ici, les jeunes réalisateurs d'ici.
Alors, il y a vraiment une cinématographie émergente, c'est tout jeune, tout récent. Le premier film émirati réalisé par un réalisateur émirati et financé par les producteurs émiratis doit avoir moins de 3 à 4 ans. C'était Sea Shadows, ensuite il y a eu City of Life. Donc au total, on a 5-6 longs métrages uniquement qui existent. Cette année, c'est l'événement Zinzana, qui est une production émiratie intégrale, avec un peu de fond jordanien, etc., mais qui est un film émirati réalisé par un artiste émirati. Et puis il y a beaucoup de courts-métrages. Mais c'est parce qu'on est vraiment face à une cinématographie émergente.
Est-ce qu'il y a un public ici pour ce cinéma, ou est-ce que le public se trouve plutôt derrière des écrans plasma, justement, dans d'autres parties du Golfe, du Moyen-Orient et du Maghreb?
Alors, aux Émirats, on est dans un marché cinématographique énorme, en plein boom. Cette année, le marché cinématographique, et en nombre de tickets vendus, et en recettes, en valeur, a dépassé le marché égyptien. Bon, l'Égypte a souffert de nombreux événements qui ont fait que ça a ralenti un peu aussi les activités de sortie de cinéma, etc. Mais en l'occurrence, les Émirats sont aujourd'hui officiellement le plus gros marché cinématographique du monde arabe. Ça, c'est une première chose. Donc, les gens vont dans les salles. Et tenez-vous bien, mais l'objectif en tout cas des professionnels, c'est de doubler le nombre de billets vendus et de monter à 40 millions de tickets par an d'ici 6, 7, voire 8 ans. Et on m'explique, quand j'en discute avec des professionnels, que le nombre de multiplex va doubler aux Émirats et va aussi se développer au Qatar, ça commence, et au Koweït. Donc il y a un vrai public qui va dans les salles. Maintenant, ce public, il va voir aujourd'hui principalement des films d'Hollywood ou des films de Bollywood. Et l'idée, le pari que nous on fait, c'est que, compte tenu du fait que les populations locales sont à 90% composées d'étrangers, de Français, d'Anglais, d'Américains, de Sud-Américains, beaucoup, d'Asiatiques, etc., il y a un vrai marché pour le cinéma français et le cinéma indépendant. Et ça commence à prendre. On commence cette année, on pourra dire qu'on a sorti une vingtaine de films français aux Émirats, comparé à un ou deux il y a 3 ou 4 ans. Donc il y a un vrai goût qui est en train d'évoluer, à la fois de la part des Émiratis et de la part des expats. On est loin du compte, hein, mais en tout cas la tendance elle est très positive pour parler comme des politiques.
شاعر لسان شيء بدون احساس ما اقدر اعبي اخطيت يوم اني طلبتك حنان لا صرت فاقد شيء وشلون تعطي مهما نطق لي بالمشاعر لسان شيء بدون احساس ما اقدر اعبي اخطيت يوم اني طلبتك حنان لا صرت فاقد شيء وشلون
Je m'appelle Nassif Kayed, je suis le directeur du Sheikh Mohammed Center for Cultural Understanding, portes ouvertes, esprit ouvert.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ce programme Open Doors, Open Mind? En quoi est-ce que ça consiste?
Alors, nous sommes situés dans le vieux quartier de Dubaï. C'est une maison traditionnelle. Nous invitons les visiteurs à des repas culturels ou des visites culturelles pour découvrir le patrimoine de la région. Et à travers ces activités, nous discutons autour d'un repas des questions de culture, de la religion, de l'histoire, de politique, de tout ce qui vous passe par la tête. Nous avons une discussion apaisée. Nous marchons dans le vieux quartier, nous visitons une mosquée, nous parlons de tout, toutes les questions que vous vous posez.
Est-ce que c'est l'un des problèmes aujourd'hui à Dubaï de ne pas pouvoir communiquer sur un certain passé?
Parler du passé, c'est très important. Tout le monde pense, oh, vous les riches arabes, vous construisez des immeubles dingues, immenses, vous êtes fous. Pourquoi est-ce que vous faites cela? Mais en réalité, nous sommes dans un village du Golfe qui a vécu de la pêche et de la collecte des perles depuis longtemps, qui a une histoire commerciale ancienne, qui était en relation avec le sud-est de l'Asie. Nous avons donc une grande histoire de belles traditions. Et je vois souvent des gens demander « qu'est-ce que vous faisiez avant d'avoir du pétrole ?» Je leur réponds qu'on vivait dans le désert et ils me demandent « comment pouviez-vous vivre dans le désert sans rien faire ?» Donc oui, c'est nécessaire pour nous de parler de notre histoire, de notre culture.
Est-ce que les touristes qui viennent ici, et je crois qu'il y a, vous voulez doubler le nombre de touristes qui viennent à Dubaï dans les prochaines années, ont besoin de ce côté patrimoine, de ce côté histoire? Est-ce que c'est une demande de leur part aussi?
Oui, quand on a créé le centre, cela est né d'une question très simple. Quelqu'un m'a demandé, puis-je vous poser une question personnelle? Comment parvenez-vous à conserver propre vos robes blanches? Je lui ai répondu, oh merci, nous ne les appelons pas des robes, mais des gandoura, et nous avons du nettoyage à sec. Et il m'a répondu, oh ok, et c'est devenu une conversation. Et tout cela a évolué. Au début, il y avait à peine quelques personnes par semaine au centre, et maintenant ce sont quelques centaines par jour. Et au lieu d'un ou deux programmes, il y a 15 ans, maintenant nous avons une douzaine de programmes par jour. Donc oui, il y a une demande. Plus il y a de touristes qui viennent à Dubaï, plus nous allons doubler ce nombre. Plus il y a de personnes qui vont demander, est-ce qu'il y a quelque chose à propos de la culture, à propos du patrimoine? Puis-je parler avec un Émirati? Est-ce que je peux vous poser une question personnelle? Est-ce que c'est possible de vous connaître? Bien sûr, le Sheikh Mohammed Center est fait pour cela.
Alors, quel type de culture est-ce que vous partagez?
Everything and anything. You'll be surprised, like I said. You know, coming to our center will be an amazing experience. Tout et n'importe quoi. Vous seriez surpris. Venir à notre centre est une expérience étonnante. Les gens nous posent des questions sur la manière avec laquelle nous sommes habillés. Comment traite-t-on nos femmes? Qu'est-ce que votre religion dit de ceci ou de cela? Est-ce que vous devez vraiment croire en cette vieille religion? Ils sont parfois très sérieux. Est-ce que vous élisez votre chair? Est-ce que vous avez la démocratie ici? Est-ce que les femmes ont des droits? Est-ce qu'elles peuvent travailler, aller à l'école? Et je leur dis toujours, combien de pays musulmans connaissez-vous? Il y a aussi cette mauvaise compréhension autour des pays arabes. Combien y a-t-il de pays arabes et combien ont du pétrole? Et c'est tout simplement comme cela que nous commençons à nous faire comprendre et à corriger les erreurs sur nous.
Est-ce que des jeunes qui auraient oublié leur tradition viennent vers vous aussi?
Oui, nous apprenons aussi des choses aux Émiratis sur leur propre culture. Et l'une des premières questions que l'on m'avait posée, c'était « Pourquoi est-ce que vous vous habillez en blanc ?» J'étais un jeune homme, donc je suis allé voir mon père et je lui ai demandé « Pourquoi est-ce qu'on s'habille en blanc ?» Mon père m'a répondu « C'est quoi le problème avec le blanc ?» Je lui ai dit « Papa, c'est une question sérieuse. Tout le monde demande pourquoi on porte du blanc. » Il m'a dit « Quoi ? Quelle couleur veux-tu porter ?» Je lui ai dit « Tu ne sais pas, toi non plus, n'est-ce pas ?» Et il est parti. J'étais frustré. J'ai commencé à poser la question à plein de gens. Tout le monde avait des réponses différentes qui n'étaient pas logiques. Donc j'ai regardé les gens qui me posaient ces questions et je leur ai demandé « Pourquoi est-ce que vous portez des jeans ?» Et je me suis rendu compte que l'on porte des costumes gris ou bleu marine quand nous allons à des rendez-vous d'affaires. Pourquoi ? Personne ne le sait. Donc j'ai commencé à apprendre. Et aujourd'hui, quand je parle de ces idées avec des jeunes, ils n'ont aucune idée sur la question. Et leurs parents ne savent pas. D'un point de vue technique, nous sommes en blanc parce qu'il y a eu une époque où, dans le désert, nous portions du beige ou bien des couleurs sombres. Mais quand nous avons perdu le commerce des perles des années 20 aux années 40, nous avons été dévastés sur le Golfe. Nous l'avons perdu à cause de l'industrie de la perle de culture japonaise. Nous avions commencé à mourir de cancer de la peau, de famine. Donc les Japonais ont eu pitié de nous et ils nous ont envoyé du tissu pour nous protéger du soleil. Car ce que nous portions sur nous n'était rien d'autre que les chutes des voiles des bateaux. Donc les Japonais nous ont donné des tissus blancs.
Quelle est la place du patrimoine dans une société qui va toujours de plus en plus vers le toujours plus?
Si vous regardez Dubaï, la manière avec laquelle nous vivons et nous avons évolué, tout cela reste très traditionnel. Nous sommes dans une ville très moderne. Regardez les hôtels, toutes ces choses que nous avons. Mais vous savez, la génération qui est venue à Dubaï pour la pêche aux perles dans les années 20-30, cette génération est toujours vivante. Jamais dans l'histoire de l'humanité, une ville n'est née de rien pour devenir une ville immense, classé 4e ou 5e au niveau mondial dans la même génération. Et c'est ça qui est dingue. Nos grands-parents sont toujours en vie, mes parents, moi, mes enfants. On parle de cette période. Notre patrimoine est donc toujours présent, nos traditions aussi. Nous mangeons toujours de la nourriture traditionnelle, nous portons toujours les habits traditionnels, nous nous asseyons toujours de la même manière, nous allons toujours à la mosquée 5 fois par jour. Nous vivons dans un pays qui a 44 ans d'existence, donc nos patrimoines, nos cultures, nos traditions sont toujours vivantes et font partie tous les jours de notre manière de vivre.
Dubaï Ville Monde, toujours plus. Avec Catherine Gilbert, éditrice, la famille Al-Serkal, Déborah Nadjar, Jean-Paul Nadjar Foundation, Philippe Blanchard, Dubaï 2020, Mohamed Benjebour, attaché audiovisuel de l'ambassade de France aux Émirats Arabes Unis, Nassif Kayed, Sheikh Mohamed Center for Cultural Understanding. Merci à Pierre Lecor, Iften Ben Hamza, Bernard Frontero, Virginie Lenorgan, agence TQC, Visite Dubaï, Dubaï International Film Festival. Les extraits du livre Sur les ailes du dragon, Voyage entre l'Afrique et la Chine, de Liv Joris, traduit par Arlette Ounagnan, sont lus par Delphine Saltel. Doublage Antoine Beauchamp, Xavier Martinet. Coordination Catherine Libert. Prise de son Pierre Quintard. Mixage Valérie Lavalard, réalisation Rafik Zénine, un documentaire d'Arnaud Contreras.
Les voyages Ville-Monde continuent sur le site internet franceculture.fr où vous pouvez réécouter et podcaster Dubaï, Ville Monde et toutes nos escales à travers le monde. Toujours plus, toujours plus loin. Après Dubaï, descendons la mer d'Arabie, l'océan Indien, les côtes de l'Afrique. Le vent nous mène vers l'ouest, l'Atlantique Sud, jusqu'en Argentine, sur les rives du fleuve Rio de la Plata, dans la ville que les navigateurs appelaient le port Notre-Dame du Bon Vent, Buenos Aires. Buenos Aires, Ville Monde, première escale, dimanche prochain 6 mars à 15h.